et la profession de boucher. Voilà ce que nous allons découvrir tout au long de cette semaine avec notre invité Christian Heurtier, boucher à Limoges, qui va nous amener dans les coulisses de cette profession qui est la sienne. On va peut-être commencer par faire les présentations. Le métier de boucher, c'est une véritable passion. Vous nous racontez un petit peu comment vous êtes arrivé dans cet univers?
Déjà, je suis issu du monde agricole et à 14 ans, je suis rentré en pré-apprentissage chez M. Ribière à Chalut à l'époque. Et puis après, j'ai suivi la filière, donc l'artisanat et la production bovine, je connais.
Ça veut dire que quand on est dans l'univers agricole, on y est baigné petit, ça paraît une évidence de poursuivre dans ce domaine-là?
Oh, une évidence, non, sûrement pas, mais à un moment donné, il y a des choix de vie à faire et ça a été celui-ci par rapport aux bêtes et par rapport au monde agricole, quoi.
Alors ça veut dire qu'il y a évidemment un parcours hein, avant de devenir officiellement boucher. Ça n'a pas été facile forcément, cette partie apprentissage?
Ah ben, facile, rien n'est facile, quelle que soit la voie qu'on choisit, même si c'est quelque chose avec passion, à un moment donné, il y a des petits heurts, des petites difficultés. Il faut essayer de les surmonter et puis après ça forme une personne et c'est enrichissant quoi.
L'intérêt c'est quoi? C'est d'avoir une partie théorique mais dans cette branche là être aussi concrètement dans l'activité très rapidement?
Ça fait partie des métiers qui ne s'apprennent pas dans les livres. Il y a une partie théorique qu'il ne faut surtout pas négliger, non. Mais il y a cette partie pratique, si on ne l'a pas, on n'y arrivera pas quoi.
Travail de courageux aussi, hein, parce que ça fait partie des travaux où il y a de la manutention, où faut pas avoir envie de se lever à 10h le matin.
Oui, mais après, à partir du moment où on veut y arriver, quel que soit, même si quelqu'un qui fait des études, s'il travaille que 2 heures par jour, ça suffira pas non plus pour arriver au bout. Donc, quelle que soit la voie qu'on choisit, il faut travailler.
Vous avez la sensation que les jeunes sont attirés par cet univers-là?
Il y en a certains, puisque là, je viens d'en récupérer un garçon qui a à peine 16 ans et qui est très motivé par le sujet, qui est en fin de troisième. Mais il faut que les parents et que l'enfant soient très motivés. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a tout un environnement qui fait qu'on veut toujours amener nos enfants au bac un peu plus.
Ça veut dire que c'est plutôt les parents qui ont du mal à laisser leurs enfants aller vers un domaine manuel?
Les parents, oui, mais il y a tout un environnement qui est autour qui fait qu'on ne les motive pas forcément.
On dit les garçons, c'est vrai que métier de boucher, on a tout de suite l'impression que c'est un métier d'homme. Il y a quand même des femmes dans votre domaine?
Il y en a, moi je ne l'ai pas au sein de l'entreprise, hormis mon épouse. Mais après, en formation, oui, il y a des demoiselles qui viennent et qui sont pas loin du tout des tout meilleurs, quoi.
Qui rivalisent.
Ah oui, qui rivalisent et même très bien au niveau de la sensibilité, de la présentation, du travail bien fait surtout.
Alors vous, c'est un métier de passion, combien d'années d'expérience maintenant?
Ah, maintenant, ça en fait quelques... 30 ans.
Un anniversaire.
Oui, voilà.
Et toujours la même envie, toujours la même passion lorsqu'on se lève le matin de venir travailler ces animaux?
Ah ben oui, déjà la passion de vouloir faire un beau rayon, de bien valoriser le morceau, oui, ça oui.
Vous avez la sensation que les gens s'intéressent de plus en plus aux bons produits et ont peut-être de plus en plus le réflexe boucherie plutôt que viande en supermarché?
Ils ont surtout envie d'apprendre, quoi, ce que je retiens sur la nouvelle génération. Ils veulent savoir d'où ça vient, quel est le mode de production et...
C'est ce qu'on va nous aussi essayer de découvrir. Et notre deuxième étape dans la découverte de cet univers de la boucherie, de la profession de boucher avec Christian Heurtier, je rappelle, boucher à Limoges. On va parler du côté production. Vous, c'est quelque chose que vous suivez de très près, c'est indispensable quand on est boucher?
Comme je suis fils agriculteur et ont repris la ferme mon beau-frère et mon frère, donc ça valorise leur travail aussi.
Tous les maillons sont importants, ça veut dire qu'il n'y a pas de bon boucher sans bon producteur?
Ah, avec un mauvais produit, ça va être difficile de bien valoriser le produit.
Alors ça veut dire que vous, concrètement, alors vous êtes au cœur de cette production familiale. Comment ça se passe exactement? Vous suivez vraiment le cheminement des bêtes, vraiment de leur naissance?
Ah oui, de leur naissance, puisqu'ils ont un cheptel, ils font naître et ils élèvent et ils vendent. Donc, grosso modo, je les vois presque nets, même si je n'y suis pas tout le temps et je ne les vois pas tous nets, mais entre mon frère, mon beau-frère et moi, on les voit naître et on les amène jusqu'à l'abattoir. Oui. Tout est né sur place. Mon père avait commencé, avant de prendre sa retraite, à créer un petit cheptel limousin. Il y a quelques normandes qui servent à complémenter les veaux en fin d'élevage, entre 2 mois et demi, 3 mois et demi, jusqu'à la date d'abattage qui est aux alentours de 5 mois. Il n'y a que des normandes, n'ont pas acheté de la farine, ils ont fait le choix de faire tout du naturel, c'est-à-dire on appelle ça des tentes dans le milieu, pour le lait, pour les complémenter.
Ça veut dire qu'on a la traçabilité de la bête, mais la traçabilité de ce qu'elle a mangé aussi?
Ah oui, au niveau de la nourriture, tout à fait. Mais à partir du moment où on ne rentre pas dans un label ou autre, c'est juste sur notre personnalité, notre confiance.
C'est familial, mais ça veut dire qu'on choisit bien son producteur et ensuite il y a la confiance qui s'instaure.
Voilà, alors il n'y a pas de papier, mais on peut mettre quiconque au défi de faire une analyse et de trouver des produits qui ne soient pas conformes au lait naturel.
Alors on parle des animaux et des bêtes du Limousin, évidemment, leur spécificité par rapport à des vaches, des veaux qu'on pourrait trouver ailleurs en France.
Il y a deux types d'élevage dans la Limousine. Il y a ceux pour faire l'élevage style gros bovin et autres, et après il y a une partie bête au niveau de la génétique qui a beaucoup travaillé, où il y a une croissance très rapide et qui celle-là est plus faite pour le veau de lait. Donc après c'est tout un travail d'éleveur avec certaines spécificités qui font qu'on arrive à de bons ou mauvais résultats.
Et alors, le consommateur, on parlera de consommateur en bout de chaîne, évidemment, qui vient vous voir en magasin, il est tenté de privilégier, on va dire, la viande Limousine. Vous sentez qu'il y a un vrai attachement, il y a une confiance qui s'est instaurée?
Ah oui, maintenant, avec tous les médias et autres, on s'aperçoit quand même que les gens, ils veulent manger du local, quand même. Que quelle que soit la production, ovine, bovine, ou même sur la volaille, si on peut trouver du local, c'est aussi bien, quoi.
Et donc, on parlait de la traçabilité, comment ça se passe en magasin? Si moi, je viens en magasin choisir une viande, j'ai moyen de voir que c'était véritablement une viande du Limousin, je sais d'où elle vient?
Normalement, on est censé l'afficher en magasin, la provenance, le lieu d'abattage, on est capable de justifier la provenance et l'élevage.
Ça veut dire qu'un bon boucher, c'est en toute transparence, on a toutes les infos si on le souhaite.
Il suffit de demander et éventuellement on peut même se déplacer puis lui montrer d'où ça vient et quel est le mode de production.
Nous allons continuer de suivre la chaîne ensemble. Notre troisième rendez-vous dans l'univers de la boucherie. Alors là, on a changé d'ambiance, on l'entend, puisqu'on continue de suivre la progression un petit peu du travail de la viande. Là, nous sommes à l'abattoir du côté de Limoges avec notre invité Christian Heurtier. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est là que vous emmenez les bêtes au quotidien?
Au quotidien, non. On essaye de s'organiser justement pour réduire les coûts et puis pour ne pas se déplacer tous les jours. On a autre chose à faire. Là, notre premier travail, c'est quand même la vente. Donc on essaye de concentrer ça sur le début de semaine où ça permet de pouvoir organiser notre semaine.
Alors concrètement, vous arrivez avec les bêtes entières et quelles sont les différentes étapes?
Alors comme on l'a dit précédemment, donc c'est familial, donc ils ont une bétaillère pour amener le vivant, ils nous l'amènent à côté sud par exemple à l'abattoir, ça rentre en vivant et puis il y a toute une chaîne et ça ressort mettons côté nord et là ça arrive en carcasse prêt à être détaillé. Donc les bêtes elles sont entières. Et il y a juste à les fendre, les couper en 4 ou en 2 en fonction du volume de la bête et on amène ça en magasin.
Juste les fendre, ça paraît simple. Comme ça, je pense que ça l'est un petit peu moins.
C'est simple s'il n'y a pas trop de vent parce que quelquefois, il faut juste bien fendre la vertèbre en deux. Donc c'est juste un coup de main surtout et viser juste.
Travail de précision évidemment, on travaille avec quels outils? Donc on a, là je vois des énormes couteaux, des petites hachettes.
C'est une hachette, on appelle ça une feuille, c'est pas paradoxal mais... C'est une feuille, on met les deux pattes arrière, soit les deux cuisses, on essaye de bien les écarter. Puis après, on part au niveau du bassin et on fend la colonne vertébrale en deux, en essayant de viser juste.
Donc ça veut dire qu'on ne découpe pas toutes les parties de la bête, c'est vraiment scinder, faire des gros morceaux qui ensuite vont travailler en magasin?
Oui, c'est un travail de grossiste, hein. Donc soit en deux pour le veau, ou soit pour le bœuf en quatre, tout simplement. Et après, c'est en magasin, ça devient du travail de magasin.
Alors là, on est dans des conditions évidemment d'hygiène très importantes, il y a des choses à respecter?
La tenue vestimentaire, et le faire le plus proprement possible, venir avec des habits et des outils propres. Mais ça, c'est le béaba, quoi.
Il y a une température ici qui est fraîche, puisqu'on est un peu dans le frigo pour que cette viande se conserve. Ça veut dire qu'on a un timing à respecter pour le travail de la viande, pour qu'elle conserve ses qualités?
Donc sur le veau, c'est pas forcément très important, mais sur le bœuf, il faut éviter de les travailler avant 8 jours pour lui laisser le temps d'avoir une maturation optimale.
Donc il faut attendre un petit peu, mais en revanche, le faire avant un certain délai aussi?
Voilà. Mais il faut savoir aussi que plus la bête est de qualité, plus elle est simple. Elle a été bien élevée et haute, mieux elle se gardera. Et une carcasse qui peut avoir des fois jusqu'à 3 semaines, elle ne sera pas du tout abîmée. Cela dit, au-delà de 3 semaines, on va perdre aussi en qualité, en goût, elle va trop sécher et ce ne sera pas mieux non plus. Mais aux alentours de 15 jours sur le bœuf, c'est parfait.
Et on voit on parlait de traçabilité justement dans le début de semaine. On voit donc là sur les carcasses des animaux, des annotations, des chiffres, des lettres. C'est cette traçabilité-là, c'est ce qui permet vraiment de suivre l'animal?
Alors, ce qui permet de suivre l'animal, ce sont les étiquettes que les services vétérinaires ont collées dessus, du moins agrafées. Les numéros que vous voyez sur la carcasse, ça c'est la classification. En fonction des numéros et des lettres qui sont là, ça détermine la catégorie de la bête. Sa conformité, sa couleur, on est pour le veau, donc il y a un chiffre pour la conformité, un autre pour la couleur et un autre pour l'état d'engraissement. Et en fonction de ces lettres ou ces chiffres, ça détermine un classement. Qui dit ce classement fait aussi le prix.
Là, on voit que ça s'active. Il y a quand même beaucoup de monde aux abattoirs. Moi, j'ai l'image, vous dégoulinez. C'est vrai que c'est un travail extrêmement physique.
Physique, oui, parce que là, il y a ça. Et puis, bon, l'abattoir de Limoges est... à un volume relativement important, donc on est plusieurs à travailler sur les mêmes rails. Il faut éviter de passer la matinée sur le même rail pour gêner tous les autres, quoi.
Et puis il y a une question très pratique, il y a l'odeur évidemment de cette viande qui est découpée ici. Ça, c'est un peu difficile au départ ou on s'habitue finalement?
Personnellement, moi ça ne m'a jamais dérangé. On n'est pas en parfumerie, on n'est pas sur les fruits et légumes. Ça a une odeur, c'est la viande, voilà. Après, il est clair que si on ne supporte pas ça, on n'est peut-être pas fait pour le métier.
Et avec Christian Heurtier, nous découvrons toujours ce métier de boucher. Un peu de bruit, là on est dans la chambre froide, mais du magasin, de la boucherie qui se trouve à Landouche pour être précis. Et là on est à côté finalement des pièces de viande qu'on a vu découper du côté de l'abattoir. C'est de belles pièces, ça fait combien ?
Ah ben sur un arrière, ça fait aux alentours de 110 kilos. Et puis ben les veaux, c'est variable, ça va de 120, 130 à jusqu'à 180 les plus lourds.
De belles bêtes quand même. Alors ça veut dire que là on les stocke ici, puis ensuite ils vont être travaillés évidemment. On va pas vendre la demi-bête directement en vitrine. Quelles sont les différentes étapes? Ça se passe à côté?
Ben juste à côté, là, il y a juste une cloison. On sort du frigo, on va dans le laboratoire et ben de là la cuisse haute va devenir en petits morceaux. On pourra appeler le rhum steak, la tranche et ainsi de suite.
Beaucoup de choses à découper. Alors on va faire le tour. Du coup, on va quitter. Il fera un peu moins froid en même temps. On se retrouve dans le magasin, donc voilà, là où il fait un peu meilleur. Et donc juste de l'autre côté, c'est là où vraiment on va donner forme à ces différentes pièces. Bonjour, c'est en plein travail.
Donc oui, voilà, les porcs que l'on a vus ce matin, ben là ils sont en train d'être découpés pour faire la transformation, afin de faire la charcuterie.
Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'en faire le maximum le lundi pour avoir du stock suffisamment pour la semaine?
Mais disons que c'est surtout que les débuts de semaine sont calmes au niveau de la vente, donc il faut en profiter pour s'avancer pour la fin de semaine justement. Mais après, c'est juste une question d'organisation.
Parce que, alors ça veut dire que sur un animal, prenons le porc par exemple, on va faire combien de morceaux de viande différents?
Donc il y a des morceaux qui vont être pour la vente de la viande en elle-même, côte de porc, rôti de porc, et après il y a comme les épaules, les poitrines, tout ça qui vont être transformés soit pour faire des pâtés, soit pour faire des rillettes ou tout simplement une saucisse.
Le but, c'est donc, si on a bien suivi la production depuis le départ, de se retrouver ici avec vraiment un animal et donc une viande de qualité.
Oui, voilà, de manière à ce qu'il y ait du gras de manière suffisante, ni trop ni trop peu, et de manière à bien le rentabiliser, oui.
Quel est l'animal le plus compliqué à travailler, à découper?
Oh, il y en a pas. Ils sont tous sensiblement la même chose. Il y a juste la taille qui diffère. Sinon, les morceaux sont les mêmes après.
Combien de personnes, du coup, travaillent ici dans l'atelier?
Eh ben, ici, Cyril en laboratoire viande et Julien en cuisine qui est juste à côté. Un laboratoire froid et un laboratoire chaud juste à côté.
Donc, c'est quand même des quantités de travail quotidien qui sont quand même impressionnantes.
Ah, un petit peu, oui. Oui,
pas chômé.
Faut bien s'occuper.
Alors, il y a aussi une façon peut-être de découper. C'est vrai qu'un morceau de viande peut être un morceau de viande pour la consommation, mais il y a quoi? Il y a un côté esthétique aussi pour la présentation en magasin qui est important?
Mais tous les morceaux ont une forme, donc à partir de là, il faut essayer de respecter ce muscle et de ne pas couper dans tous les sens, pas donner les coups de couteau dans tous les sens où on va se retrouver d'un côté avec tous les déchets et de l'autre côté que le cœur.
Ça veut dire qu'il y a un petit côté artistique de la part des employés ici?
Artistique, c'est un autre mot, mais un savoir-faire, c'est évident.
Notre dernier rendez-vous déjà dans l'univers de la boucherie avec notre invité, notre guide Christian Heurtier. On va terminer là, on est en magasin, on a vraiment été de chaque bout de la chaîne, de la production véritablement jusqu'au consommateur. La vitrine, c'est impressionnant, c'est une quantité de produits, alors viande, traiteur, on va y revenir, mais qui est assez phénoménal. Ça, c'est un stock pour quoi? Pour combien de temps de consommation?
Ça peut représenter deux jours à peu près, mais bon, comme on prend sur le sec, ça se garde un peu plus longtemps que deux jours. Maintenant, sur un beefsteak, au-delà de deux jours, c'est un peu difficile. Ouais. Du moins, c'est surtout sur l'aspect visuel. Une fois qu'il est travaillé, qu'il est épluché, il faut que dans la journée, qu'il soit parti, quoi.
On dit visuel, ça veut dire que parfois, il perd un petit peu de sa superbe, mais il reste un bon produit de bonne qualité.
Ah oui, on va mélanger les deux, oui, tout à fait. Oui. Après, il risque sécher ou un petit peu s'abîmer puis perdre du jus, donc il n'y a aucun intérêt de préparer trop de marchandises à l'avance, il faut que ça suive.
Donc, l'intérêt de venir ici en boucherie, c'est d'avoir aussi le bon conseil et le boucher peut expliquer.
Oui, bien sûr. Puis il y a des mots qui sont un petit peu trompeurs. Entre une fondue bourguignonne et un bourguignon, ne pas se tromper sur les morceaux, parce que même si ça reste un morceau de la qualité, mais après c'est deux catégories différentes. Bourguignon, ça va être les morceaux
de troisième catégorie, comme le collier, quelque chose comme cela, alors que la fondue bourguignonne, on va mettre des morceaux nobles.
Alors, on voit que les choses sont bien achalandées, bien organisées. Il y a un vrai travail et une recherche de tel plat, plus en avant, plus en retrait. Comment vous avez un petit peu organisé cette vitrine ?
Mais du moins, sur la viande, on va essayer de jouer sur les couleurs entre la viande rouge, qui est l'agneau et le bœuf, avec le veau et le porc, qui sont un peu plus clairs. Et sur la volaille, on va essayer de l'alterner, un rouge, un blanc, un rouge, un blanc.
On précise que quand même, tout est fait ici. On le disait dans le précédent rendez-vous, la viande, les plats traiteurs, c'est beaucoup de travail. Comment on gère les proportions ? Comment on anticipe les besoins pour un minimum de pertes ?
C'est l'expérience, quoi, à la longue. Quand on ouvre comme ça, tout à fait au début, quand on est arrivé ici, on faisait par très petite quantité. Maintenant, ça fait à peu près 2 ans que nous sommes là. On sait à peu près ce que l'on va passer. On essaye aussi de s'adapter en fonction du temps, des saisons et du temps. Et après, on a d'une semaine sur l'autre, il y a peu de variations quand même.
Pour terminer, quels sont les grands classiques, les grands coups de cœur de la clientèle, ce pourquoi on vient vous voir ? Il y a des morceaux fétiches en Limousin ?
Nous, maintenant, ça commence à se savoir qu'au niveau du veau de lait, c'est du véritable veau de lait élevé sous la mer, pure tradition et le plus naturellement possible. Donc, on a des clients qui viennent ne serait-ce que pour acheter du veau, oui.
Et après, il y a au niveau du traiteur des plats, on sait que là, on peut y aller, on peut produire parce que c'est les grands classiques et on aura forcément de la demande.
Oui, voilà les trucs de base, endives au jambon, gratin de courgettes, sur des trucs très simple comme cela, là on peut les faire, on sait que dans la journée ce sera parti, quoi.
On se dit quand même, gratin de courgettes, le faire à la maison ça nous prend déjà 3 heures, on imagine si on avait à faire tout ce qui est dans la vitrine, ça relève du quasiment du défi, hein.
Ah ben oui, tout à fait, oui.
On va venir les chercher ici, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Le mot de la fin, ce sera pour le professionnel. On a parlé du goût des clients, votre goût à vous, si vous aviez un coup de cœur, on va parler de viande évidemment, votre coup de cœur à vous ce serait ?
Une belle côte de veau.
Et cuisiner comment ?
Le plus simplement possible, juste bien grillé. Et la priorité, c'est de le faire bien saisir et après on baisse.
Sans rien de superficiel ?
Non, voilà.
Sans
simplement possible.
Et bon appétit donc.
Merci.